Avertissement du rap Grande Culture numéro 14 du 30 juillet 2021, lu par Isabelle Fréchette. Dans cet avertissement, il sera question de pucerons du soya, de la pourriture asclérote, de la chrysomèle du haricot, de l'impact possible des insectes sur la pollinisation du maïs et du ver gris occidental des haricots. Pucerons du soya. Forte baisse des populations dans plusieurs champs, hausse observée dans d'autres. Parmi les 22 champs suivis par le RAP qui atteignaient le seuil d'alerte de 250 pucerons par plan la semaine dernière, 14 champs ont vu leur population diminuer, 2 champs sont restés stables et les pucerons sont en augmentation dans 3 champs. 3 autres champs ont été traités avec un insecticide. En dehors des suivis réalisés par le RAP, une chute drastique des pucerons dans certains champs, en l'espace de 2-3 jours, a été rapportée. Des traitements qui devaient avoir lieu cette semaine en Montérégie ont été annulés en raison de ce phénomène. Les populations dénombrées par les dépisteurs du RAP en début de semaine sont en baisse dans presque tous les champs suivis en Outaouais, en Montérégie, dans les régions de Lanaudière et dans les Laurentides. L'action des ennemis naturels a contribué à la chute des populations de pucerons. Les plus récentes pluies ont également pu avoir un impact. Une hausse plus ou moins importante, selon les champs, est observée en Capitale-Nationale, au centre du Québec, en Chaudière-Appalaches, de même qu'en Estrie. Le tiers des champs de soya suivis par le RAP a maintenant atteint le stade de croissance R5, où l'on peut observer les premières graines mesurant au moins 3 mm dans les gousses situées dans l'un des 4 nœuds supérieurs. Au-delà de ce stade, un traitement insecticide a peu de chances d'être rentable. Le dépistage des champs qui n'ont pas atteint le stade R5 est toujours recommandé. Pour rappel, le seuil de 250 pucerons par plant n'est pas un seuil d'intervention, car même à des densités beaucoup plus élevées, il n'est pas recommandé de traiter si on observe une diminution ou une stabilisation des populations 3 jours plus tard. Un suivi serré du champ est cependant nécessaire pour s'assurer que la répression naturelle se poursuit. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder à un guide sur les stades du soya et si vous voulez en savoir plus sur le dépistage du puceron et la stratégie d'intervention, consultez l'avertissement numéro 11 du 9 juillet 2021. Pourriture à sclérote, champ à risque sous surveillance. Le dépistage effectué cette semaine a permis d'observer la présence d'apothécies qui produisent des spores infectieuses de la maladie dans la majorité des sites en observation, c'est-à-dire 31 sites sur 34. Les conditions météorologiques des derniers jours et les prévisions météorologiques des jours à venir sont favorables à la germination des sclérotes, au développement d'apothécies et à l'infection. Les stades de développement du soya R1 à R3 sont les plus critiques puisqu'une infection à ces stades pourrait causer des pertes de rendement. À partir du stade R4, c'est-à-dire lorsqu'au moins une gousse de 2 cm est présente sur l'un des 4 nœuds les plus élevés de la tige principale, les risques d'infection et de dommages sont moindres. À ce stade, les résultats d'une étude américaine ont démontré que des applications de fongicides n'amenaient pas de bénéfices économiques. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder à un guide d'identification des stades du soya. Ces conditions font en sorte qu'il est opportun de vérifier le stade de votre culture, de tenir compte des autres facteurs de risque afin d'évaluer la pertinence d'un traitement fongicide. L'appréciation du risque doit être faite pour chaque champ. Deux de ces facteurs qui sont essentiels à considérer sont l'historique d'infestation du champ et la sensibilité de la variété à la maladie. Dans certains champs, les premiers symptômes de maladie pourraient être observés. Des feuilles desséchées dans le haut des plants sont souvent un bon indicateur du début de l'infection. La moisissure blanche se situe généralement à la base des plants. Dans l'avertissement, vous avez le lien pour accéder à la fiche technique du RAP sur la maladie pour plus de détails. Certaines matières actives contenues dans les fongicides visent à empêcher la germination des spores qui se déposeraient sur le plant. D'autres matières actives permettent, si l'infection a débuté, de réprimer le développement dans les tissus non atteints par le champignon et dans les nouveaux tissus de la plante. Ils n'auront toutefois pas d'effet curatif sur les tissus déjà infectés. Il est à noter que les fongicides foliaires ont un impact négatif sur les champignons entomopathogènes qui contribuent à abaisser les populations de pucerons du soya. Afin de connaître les traitements fongicides homologués pour lutter contre la pourriture asclérote dans la culture du soya, incluant des biofongicides et les indices de risque pour la santé et l'environnement qui y sont associés, consultez le site Sage Pesticides. Deuxième vague d'adultes de chrysomèle du haricot et autres défoliateurs dans le soya. La génération de chrysomèle du haricot issue des adultes ayant pondu au printemps émerge après la mi-juillet. Ces adultes vont se nourrir, ces prochaines semaines, du feuillage et des gousses du soya. Des observations de cette deuxième vague d'adultes sont rapportées aux RAB grandes cultures depuis la semaine passée. Ces cas ne nécessitent pas d'intervention pour le moment. En plus de la chrysomèle du haricot, différents insectes défoliateurs du soya peuvent être observés à cette période de la saison. Scarabée japonais, mélouée cendrée, belle dame, criquet, altise à tête rouge. Afin d'évaluer l'impact des insectes défoliateurs dans la culture du soya, on recommande d'évaluer le pourcentage total de défoliation ainsi que le stade de croissance de la culture, et ce, quel que soit l'insecte. Au Québec, aucun seuil d'intervention n'a été validé. Toutefois, le seuil utilisé en Ontario est de 15 % de défoliation du début de la floraison, soit le stade R1, jusqu'au remplissage des gousses, R3. Afin d'estimer le pourcentage de défoliation d'un champ de soya, prélevez, dans 10 zones du champ, de 1 à 3 trifoliés dans le milieu du feuillage de 5 plants. Donc, de faire l'évaluation sur au moins 50 feuilles par champ au total. Les 10 zones doivent être bien reparties dans le champ, puisqu'il est normal de voir plus de dommages en bordure de champ. Pour chaque feuille examinée, jetez la foliole la moins endommagée et la foliole la plus endommagée. Comparez la foliole restante au montage photographique disponible dans l'avertissement pour déterminer le pourcentage de défoliation. Il existe également des applications pour téléphone intelligent qui estiment le pourcentage de défoliation. Finalement, faites la moyenne de toutes les folioles évaluées. Au stade R5 et R6, le seuil d'intervention est de 25 % de défoliation ou 10 % des gousses endommagées. L'évaluation des dommages aux gousses et des gousses coupées se fait sur 2 plants par station pour un total de 10 stations. Le pourcentage de gousses endommagées est déterminé en faisant le ratio du nombre de gousses coupées et ou présentant des dommages sur le nombre de gousses totales sur les plants. Un traitement pourrait être justifié si le seuil de défoliation est atteint ou si 10 % des gousses présentent des dommages. Enfin, il faut aussi tenir compte du nombre et de l'activité des chrysomèles s'alimentant sur les gousses. Dans le cas particulier de la chrysomèle du haricot, bien qu'il n'existe pas de tel seuil d'intervention au Québec, le site Internet de l'Université Purdue propose un tableau d'intervention en fonction des dommages aux gousses, du nombre de chrysomèles actives dans le champ et de la maturité des plants. Les chrysomèles sont collectées à l'aide d'un filet fauchoir et ce, sur un seul rang de soya semé aux 30 pouces en faisant un mouvement pendulaire. Vous avez dans l'avertissement le tableau dont il s'agit. Pour connaître les insecticides homologués contre la chrysomèle du haricot, consultez le site de Sage Pesticides. Impact possible de certains insectes, chrysomèle des racines du maïs, altise à tête rouge et scarabée japonais, sur la pollinisation du maïs. Les adultes des chrysomèles des racines du maïs, d'altise à tête rouge et de scarabée japonais peuvent être observés en ce moment en train de s'alimenter sur les feuilles du maïs. Toutefois, leur impact est plus important lorsqu'ils s'attaquent au soya, ce qui peut affecter la pollinisation. Dans quelle situation y aurait-il un impact notable sur le rendement du maïs grain? L'impact pourrait être important si toutes les conditions suivantes sont rencontrées lors du dépistage. Premièrement, moins de la moitié du champ est pollinisé. Il existe une méthode simple pour l'évaluer et dans l'avertissement, vous trouverez un lien pour plus de détails. Deuxièmement, la portion des soies sortant de l'épi mesure moins d'un demi-pouce, autrement dit 1,5 cm. Et troisièmement, les ravageurs sont présents et s'alimentent sur les soies. Il n'y a pas de seuil économique d'intervention disponible pour l'altise à tête rouge. Pour ce qui est de la chrysomèle des racines du maïs, l'Université de l'Iowa utilise un seuil de 5 individus ou plus par plant. Quant au scarabée japonais, certains États américains utilisent un seuil de 3 adultes et plus par épi. Il est rare que toutes les conditions soient réunies pour justifier un traitement insecticide. Advenant que ce soit le cas, peu d'insecticides sont disponibles pour ces insectes. Un seul insecticide foliaire est homologué contre l'altise à tête rouge dans le maïs. Aucun insecticide foliaire n'est homologué dans le maïs pour lutter contre les adultes du scarabée japonais et les chrysomèles des racines du maïs. Hausse des captures de papillons du vert-gris occidental des haricots, le dépistage des masses d'œufs doit se poursuivre. Les captures de papillons du vert-gris occidental des haricots ont augmenté considérablement cette semaine. Le pic de capture devrait être atteint prochainement dans plusieurs régions. Des spécimens sont retrouvés dans la quasi-totalité de la centaine de sites de piégeage de papillons. Dans l'avertissement, vous avez un lien pour accéder aux résultats détaillés pour chacune des régions. Bien que les captures de papillons soient parfois importantes, elles ne permettent pas de prédire dans quel champ des masses d'œufs seront pondues et quelle sera leur abondance. Il est donc important de cibler des champs à risque pour le dépistage des masses d'œufs, c'est-à-dire ceux qui sont situés dans des zones sableuses, qui ont déjà subi des dommages par le passé et qui présentent une croissance inégale des plants. Les papillons femelles cherchent à pondre sur des plants dont les croix sont sur le point de sortir ou tout juste sorties. Jusqu'à maintenant, des masses d'œufs ont été dépistées dans 21 des 43 champs ciblés dans le cadre du RAP. L'Outaouais est la seule région où des champs ont atteint le seuil économique d'intervention de 5 %. Selon certains États américains, en présence d'ennemis naturels, le seuil pourrait être augmenté à 8 %. Dans l'avertissement se trouve un tableau de résultats montrant que des masses d'œufs ont aussi été trouvées au Bas-Saint-Laurent, en Estrie, dans les Laurentides et en Montérégie. Le maximum de plants atteints dans ces champs variait entre 1 et 2 %. Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter ou contacter le secrétariat du RAP.